Rebonjour tout le monde. Bon, apparemment, je sais pas appuyer sur un bouton play, je suis désolé. J'espère que vous allez tous bien. Dédicace à tous les primos ou les anciens qui s'étaient cachés l'année dernière qui vont découvrir leur premier numéro de Biorad, ou Biologica Radiophonicus, pour ceux qui aiment bien les noms en rallonge ou le latin. Petite présentation rapide, Léo et moi, donc Baptiste, on est en M1 de biologie et on anime régulièrement cette émission dont le but est de vous faire découvrir les facettes un peu cachées du monde du vivant. Parce que non, tout n'est pas mignon dans la nature, loin de là, et comme dirait la voix de Secret Story, wesh, nous aussi on peut faire des citations, méfiez-vous des apparences. Pour ce numéro de rentrée, nous allons nous concentrer sur les animaux disparus. Bon, on est désolé, le numéro sur sexe, il est déjà passé l'année dernière.
Dommage. Hein.
Alors on commence avec le dodo qui, tout le monde le sait, a disparu pendant l'âge de glace, suite à une grave pénurie de pastèques provoquée par un mammouth, un tigre à dents de sabre et un paresseux.
Non, plus sérieusement, des espèces qui disparaissent naturellement, ça arrive en permanence, en même temps que de nouvelles se forment. Pardon. Et la disparition est parfois plus une transformation qu'une perte au sens strict. Mais il arrive parfois que la nature, comme ça, décide de faire le grand ménage de printemps et détruise entre 50 et 90% des espèces vivantes. Elle ne fait pas les choses à moitié. Comment a-t-on appelé ça? Eh bien, dans un éclair de génie et d'inspiration, les biologistes ont appelé ça les extinctions de masse. Voilà, faut pas nous faire confiance pour l'inspiration. Hein. Mais bon, paradoxalement, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, ce sont des phénomènes qui sont lents. Ça se déroule au minimum sur plusieurs milliers d'années. Il y a une phase descendante où de nombreuses espèces s'éteignent simultanément, soit directement à cause du mécanisme qui a déclenché l'extinction, ou alors parce qu'elles perdent les espèces qui leur servaient de bouffe. La situation se stabilise ensuite avec quelques espèces survivantes mieux adaptées à l'environnement de crise, puis qui subissent encore les conditions d'extinction. Puis, quand les espèces sensibles ont disparu, les résistantes se remultiplient et radient, c'est-à-dire qu'elles vont donner naissance à plein d'autres nouvelles espèces. À noter que très souvent, un environnement est plus frappé que les autres, et que la résilience de la vie est largement supérieure aux extinctions, même les plus massives, hein. Sinon on ne serait pas là. On a identifié aujourd'hui les traces de 5 grandes extinctions de masse depuis l'explosion du Cambrien il y a environ 500 millions d'années. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant.
Alors remontons 2,4 milliards d'années en arrière, une époque assez sympa, aussi appelée paléoprotérozoïque. Bon, j'ai compté, ça fait environ 88 points au Scrabble, j'ai rajouté les 50 points de Scrabble, sinon ça marchait pas. Marquée par l'augmentation de la surface des continents, l'apparition des organismes eucaryotes, c'est-à-dire en gros qui ont un noyau, et des pluricellulaires, ainsi que par la naissance de ta prof de français de 4e. Pendant cette période, les organismes primitifs vivaient en pratiquant la photosynthèse. En bref, pour mes amis littéraires qui ont abandonné les sciences inhumaines, en première, ils respirent du dioxyde de carbone CO2 et recrachent du dioxygène O2 en utilisant l'énergie du soleil. Bref, nos amis les bactéries ancestrales allaient bien, au calme, et elles continuaient à rejeter du dioxygène dans les océans. Ce dioxygène, il rouillait le fer au fond des mers, ou si vous préférez la version compliquée et scientifique, le dioxygène O2 précipitait le fer ferreux en hématite et magnétite. Jusque-là, tout va bien. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, les réserves de fer à oxyder se sont épuisées et les dioxygène a dégazé dans l'atmosphère. Et là, c'est parti en couille. Les bactéries anaérobies, elles n'avaient pas vraiment l'habitude de ce nouveau truc toxique en quantité importante. Du coup, comme ça a beaucoup de défense une bactérie, elles sont mortes. Une minute de silence pour toutes ces bactéries. Bon, c'est long, une minute, désolé. Bref, et comme si ça ne suffisait pas, cet oxygène nouvellement apparu dans l'air a réagi avec le méthane et ça a déclenché une glaciation. Pas la petite glaciation qu'on a en ouvrant son frigo ou bien quand on a oublié d'allumer son chauffage en hiver. Non, non. La bonne glaciation des familles qui a duré 300 millions d'années.
C'est long.
Donnant la période... Oui, c'est très long même.
C'est très très long.
La période dite de la Terre boule de neige. Toute la Terre était congelée, excepté une mince bande de terre à l'équateur. Bon, après, vous vous en doutez, les glaces ont fondu et la vie s'est adaptée à cette nouvelle atmosphère en proposant des organismes aérobies, comme nous, qui aimons plutôt bien le dioxygène et ont réussi à peu près à le gérer.
Essayez de respirer dans une atmosphère de dioxyde de carbone, vous n'allez pas tenir très longtemps.
Bon, après cette extinction-là, qui est quand même bizarre, ça remonte à super longtemps, il n'y a pas d'explosion, c'est pas assez cool, nous on en veut plus. Rassurez-vous,
Michael Bay.
Des extinctions en mode apocalypse, il y en a eu. Allons à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années, joyeuse époque du tyrannosaure et autres triceratops. Attention par contre à ne pas mélanger tout dans votre tête, tous les dinosaures n'ont pas vécu en même temps, et vous dites « oui mais vivez tous ensemble, regarde Jurassic Park, hein ?» Parce que, par exemple, la période qui sépare le stégosaure, le gros truc avec des plaques sur le dos...
Des descriptions scientifiques et précises.
Exactement. Du T-Rex, le gros truc avec une grande bouche et des petits bras... est moins long que celle qui sépare le T-Rex de l'homme, le petit truc avec un gros cerveau égo, pardon. D'ailleurs, en parlant de Jurassic Park, je crains être obligé de briser vos rêves. Mais c'est pas possible de refabriquer des dinosaures.
Dommage, hein.
Alors oui, récemment, on a trouvé des globules rouges de dinosaures, mais la science est formelle. L'ADN ne résiste pas à des dizaines de millions d'années. Le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est le Chiconosaurus. Oui, oui. Comme tout le monde a suivi la fin de Jurassic Park, vous savez que les dinosaures et les oiseaux ont le même ancêtre. Et l'année dernière, des chercheurs américains ont manipulé les gènes d'un poulet qui a développé un museau type Vélociraptor à la place du bec. Sans déconner, il nous en faudrait deux ou trois à côté des mouflons. Bon, j'arrête avec mes délires de savant fou et on va revenir à quelque chose que vous connaissez sans doute mieux, la crise cathée. Bon, c'est pas un caprice d'enfant qui en a marre du catéchisme. Vous connaissez ça probablement sous le nom de la grosse météorite qui a tout cassé, oulala, boum, boum, explosion. Alors pour que vous compreniez mieux, on va faire un flash info avec 66 millions d'années de retard.
Mesdames et messieurs, l'heure est grave. D'après nos envoyés spéciaux, une météorite de 10 km de diamètre se serait écrasée dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Le cratère causé par l'impact ferait plus de 150 km de diamètre d'après nos dernières estimations, plus gros que ta mère, tu te rends compte. Le spectacle est magnifique, un panache de débris est en train d'envelopper gracieusement la Terre tout en créant une pluie d'étoiles filantes, visible sur toute la planète, c'est beau. Nous vous conseillons de sortir admirer la beauté de ces événements célestes, provoqués par une explosion similaire à plusieurs milliards de fois celle de la bombe d'Hiroshima.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons à comprendre les conséquences pas très joyeuses de l'impact de la météorite de l'autre jour. En effet, la météorite aurait induit une onde sismique équivalente à un tremblement de terre de magnitude 11 sur l'échelle de Richter. Cela aurait fragilisé la couche terrestre de l'autre côté du globe et provoqué des éruptions volcaniques au Deccan, je ne sais même plus où c'est.
En Inde.
Ces volcans gigantesques ont également craché à leur tour un grand nuage de poussière dans l'atmosphère. Encore une fois, ce spectacle magnifique peut être observé depuis chez vous. Mesdames et messieurs, ceci reste que d'être notre dernière transmission. En effet, le joli spectacle que l'on pouvait voir dans le ciel est en train de nous tuer.
Juste comme ça, hein.
À cause de toutes les particules en suspension dans l'air, la lumière a du mal à parvenir jusqu'au sol, ce qui gêne la photosynthèse des végétaux. Ce manque de végétaux entraîne une mort des herbivores et des véganes, suivie d'une extension croissante des carnivores. J'ai été ravi, d'être cette dernière émission, et je tenais à vous remercier, tous mes amis Triceratops, vous êtes top les gars, changez pas. La crise cathée a envoyé ad patres environ 62% des espèces, et a donné le coup de grâce aux grands dinos, qui étaient déjà un groupe mourant, il faut le savoir. Elle a également propulsé les mammifères, qui étaient là depuis longtemps, sur le devant de la scène.
Bon, le gros météore qui provoque une réaction en chaîne, c'est sympa, mais la crise cathée est loin d'être la plus violente que la Terre ait connue. Il y a eu bien pire. J'ai nommé la crise Permien-Trias, ou PT, il y a environ 250 millions d'années. On ne sait pas vraiment le mécanisme qui a déclenché ce cataclysme, à part le fait que la Sibérie tout entière 2 millions de kilomètres carrés, soit un lac de lave à l'époque, ça a dû y être pour quelque chose, mais bon, c'est encore à confirmer. Mais notez juste que la température moyenne des océans a dépassé 40 degrés à l'équateur pendant plus de 50 000 ans, et la terrestre plus de 60 degrés. Cuisson express. Parallèlement, le taux d'oxygène a fortement chuté dans les océans, tandis que ceux-ci connaissaient une acidification express par dissolution de CO2 dedans. 90% des espèces ont été rayées de la carte dans ce four, rien que ça, hein, et d'immenses zones de la Terre ont été vidées pendant des dizaines de milliers d'années. On estime que la vie a remis environ 30 millions d'années à s'en remettre complètement, le temps que la radiation évolutive post-extinction se mette en place. Ah, les radiations évolutives. La nature a horreur du vide. Or, quand on retire plus de 70% des espèces vivantes, bah, ça fait un peu de la place. Autrement dit, on libère des niches écologiques en jargon biologique. Les espèces qui ont survécu obtiennent d'un seul coup beaucoup de nouveaux territoires et environnements à conquérir, et ce faisant, de nombreuses nouvelles espèces apparaissent à partir des survivantes, en s'adaptant chacune à l'environnement qu'elles ont colonisé. C'est ce mécanisme qui a assuré la domination des dinosaures après la crise Permien-Trias, et celle des mammifères après la crise cathée. Ainsi, après une extinction, on trouve souvent plus d'espèces qu'avant, ce qui est un peu paradoxal. Au début de cette émission, nous avons indiqué que notre Terre avait connu 5 grandes extinctions de masse dans son passé. Or, on est à peu près certain maintenant qu'une sixième, l'extinction de l'Holocène, est en cours, et c'est la pire depuis sa naissance à la Terre. La faute à qui ? Eh ben, à l'espèce dont je suis un des représentants, l'homme, bien sûr. Et oui, depuis que nous existons, le nombre d'espèces sur Terre n'a cessé de diminuer, et depuis un siècle, bon, il dégringole, hein, carrément. Le mammouth, le dodo, l'aurochs, le quagga ne sont plus depuis longtemps, et on estime qu'entre 200 000 et 2 millions d'espèces disparaissent par an, certaines dont on ne connaît même pas l'existence. En un siècle, la biodiversité a diminué de moitié. Le taux d'extinction de la sixième crise est 100 fois plus rapide que les taux des 5 premières, et fait inédit, touche des espèces qui, de ce qu'on a déduit des traces des 5 premières, sont peu sensibles aux extinctions, comme les plantes. On évalue ainsi qu'une espèce d'oiseau sur 8, un mammifère sur 4, un amphibien sur 3 et 70% de toutes les plantes sont en péril. Même certaines espèces, qu'on arrive à peu près à sauver, sont considérées écologiquement mortes. C'est-à-dire qu'on les garde dans les eaux, mais leur environnement n'existe plus ou est en voie de disparition, comme par exemple les pandas. Et ça, on a réussi à le faire en à peine 150 ans, ce qui est bien plus rapide que l'extinction provoquée par l'impact du Yucatan il y a 66 millions d'années. Vous vous rendez compte qu'on est en train de faire mieux qu'un gigantesque météore de 10 km de diamètre. On est vraiment les meilleurs. Vous allez naïvement me dire, s'il y a bien une espèce qui ne va pas disparaître, c'est la nôtre. Pourquoi flipper ? Grave erreur. Primo, nous reposons sur tout plein d'espèces pour vivre. Si elles disparaissent, on est dans le mal. Prenez les abeilles. Leur nombre dégringole d'année en année, or elles pollinisent 70% des plantes qu'on mange. Sans elles, récolte désastreuse, famine et mort assurée. Et Deuzio, ne croyez pas parce que nous sommes nombreux, nous sommes insensibles à une extinction. Le groupe des primates auquel nous appartenons est un groupe en voie de disparition. Et oui, l'âge d'or des primates était il y a 20 millions d'années. Et depuis, notre groupe ne cesse de perdre des espèces. Même notre genre, Homo, ne compte plus qu'un seul représentant, alors qu'il y en a eu des dizaines auparavant. Alors, que va-t-il se passer si nous sommes incapables de stopper l'extinction ? On va être emportés aussi, très probablement, et laisser la place à de nouvelles espèces qui vont occuper les niches que nous avons libérées. Et elles vont radier à leur tour, restaurant la biodiversité qui sera adaptée au nouvel environnement, sûrement plus chaud que celui actuel.
Stopper la machine infernale demande les mêmes actions que contre le réchauffement climatique. Protéger au maximum les espèces, arrêter la destruction d'habitat, restaurer une diversité génétique importante chez les espèces uniformisées et maîtriser la démographie humaine. Il faut aussi diminuer drastiquement notre consommation des ressources. Oui, en gros, il faut arrêter de baie.
Oui, merci Baptiste, on a saisi l'idée. C'est vrai.
Bref, sur cette note joyeuse qui achève notre émission, on espère que vous avez appris de nouvelles choses et que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On vous remercie chaleureusement et on vous dit à la prochaine sur les ondes. Ciao les loulous.
Salut.
Se danser avec les maths.
Se danser avec les maths, c'est l'émission à venir. Merci à vous pour Biologie consacrée aux extinctions. Et c'est maintenant l'heure justement de Danse avec les maths avec Corentin, Rémi et Nicolas qui arrivent.